Europe 1, il est 8h.
Vous imaginez, je voyage à l'autre bout de la planète, peut-être que je propage le virus. Ils doivent contrôler ça dans les aéroports.
Pas de contrôle ni de consigne au départ de Codogno, foyer italien du coronavirus. Les voyageurs sont stupéfaits. Reportage édifiant dès le début de ce journal.
L'inquiétude des habitants de Vaumoise, c'est dans l'Oise, village où vivait l'homme décédé mardi soir des suites de ce coronavirus. Il n'avait pas voyagé dans l'une des zones à risque.
La chloroquine, ce médicament contre le paludisme, est-il réellement efficace contre le coronavirus? Des Français se ruent dans les pharmacies pour s'en procurer. Attention, la chloroquine n'est pas dénuée d'effets secondaires.
Il faut y faire très attention parce qu'il donne beaucoup d'effets secondaires. Donc c'est pas du tout un médicament anodin. Et il ne faut pas ce médicament le laisser se diffuser comme ça sans contrôle médical.
À Strasbourg, l'incendie d'un immeuble a fait cette nuit 5 morts, 7 blessés. Le feu serait parti d'un tableau électrique.
Deux personnes ont été arrêtées et sont actuellement interrogées pour des vérifications. Nous serons à Strasbourg dans quelques instants.
Très lourde condamnation de 7LM, filiale de BNP Paribas, condamnée pour avoir dissimuler les risques de ses prêts en France-Suisse.
L'exploit hier soir des Lyonnais face à la Juventus Turin. 1-0 en 8e de finale de Ligue des Champions. Les supporters de l'OL en liesse.
Quelle victoire! Plus beau match de la saison, ça c'est sûr.
Un match où 3000 supporters turinois étaient présents en tribune et ça pose question à l'heure où l'Italie fait face à l'épidémie de coronavirus.
Mais où est
toujours
donc passé le principe de précaution? Question qui sera posée à la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, après ce journal.
8h02 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Se dirige-t-on en France vers une propagation du coronavirus tel qu'on le constate en Italie après l'annonce hier du premier mort de nationalité française, sexagénaire, dont on ignore toujours comment il a été contaminé? Eh bien, le ministre de la Santé se veut malgré tout rassurant. Pas d'épidémie dans le pays, répète-t-il.
Les autorités n'envisagent pas de fermeture de frontières. C'est le principe de l'espace Schengen. Dans ce contexte, nous avons voulu vérifier comment se passe ces jours-ci le retour des personnes depuis une zone contaminée vers la France. Notre reporter Romane Hoquet est rentré hier de Codogno.
Effectivement, épicentre italien du virus, près de Milan, elle a fait le voyage en avion. Son reportage est édifiant, pratiquement aucune information, aucun contrôle.
16h, arrivée à l'aéroport de Milan. Dans le hall, je cherche, mais aucun panneau, aucune affiche sur le coronavirus.
Bonjour.
Mettez-moi le téléphone. Okay.
Donc là, j'ai passé les contrôles de sécurité et même avec mon masque, on ne m'a pas posé de questions. En salle d'embarquement, je patiente à côté de Tullio. Il part pour le Brésil.
Vous imaginez, je voyage à l'autre bout de la planète. Peut-être que je propage le virus. Ils doivent contrôler ça dans les aéroports.
On avance notre équipage. Je vous souhaite la bienvenue à bord de cet Airbus A319 Air France.
Dans l'avion, aucune consigne. D'ailleurs, le personnel ne porte pas de masque. 19h30, atterrissage à Paris. Dans les couloirs, des brochures sur la Chine, rien sur l'Italie et personne pour vérifier notre température.
Il n'y a rien, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien à l'arrivée et c'est même incompréhensible.
Je vais quand même aller vérifier au centre médical. Bonsoir, j'arrive de la ville de Codogno en Italie. Je voulais savoir si j'avais des précautions particulières à prendre. Ou...
On n'en sait rien, ça change tout le temps, me répond l'infirmière. La quarantaine, c'est vous qui voyez.
Le virus qui s'étend désormais sur 3 continents. Premier cas en Amérique latine, au Brésil. Au total, près de 3000 contaminations hors Chine dans une quarantaine de pays.
Est-ce le remède contre le coronavirus? La chloroquine, cette molécule utilisée contre certains maladies auto-immunes, suscite en tous les cas un espoir mesuré.
Hier matin, l'infectiologue Didier Raoult, ici même sur Europe 1, nous annonçait que la chloroquine pourrait peut-être vaincre le coronavirus.
Oui, alors à ce stade, les tests sont encourageants, mais attention, vraiment, ne courez pas en acheter en pharmacie. Sans avis médical, les effets secondaires peuvent être dangereux. Victor Dolande.
L'essai clinique a été mené dans plus de 10 hôpitaux chinois, à Wuhan notamment, mais aussi Pékin et Shanghai. Selon les résultats, la chloroquine a amélioré l'état des poumons des patients contaminés et raccourci la durée de la maladie. Des tests encourageants pour le ministère de la Santé qui va faire rapidement des analyses complémentaires. Selon nos informations, de très nombreux patients se ruent déjà dans les pharmacies pour acheter de la chloroquine. Inutile et surtout dangereux pour Gilbert Deray, néphrologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Il faut y faire très attention parce qu'il donne beaucoup d'effets secondaires et en particulier, il donne des atteintes de la rétine avec des pertes de la vision qui peuvent être irréversibles. Il donne des troubles du rythme qui peuvent conduire à l'arrêt cardiaque. Donc, ce n'est pas du tout un médicament anodin. Et il ne faut pas ce médicament le laisser se diffuser comme ça, sans contrôle médical.
À ce stade, la seule chose à faire pour se protéger à titre individuel, c'est se laver les mains plusieurs fois par jour. Et si vous présentez des symptômes, surtout ne vous rendez pas aux urgences, mais appelez le 15.
Bonjour Odile Lenay.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, professeur Launay, responsable du centre de vaccinologie à l'hôpital Cochin. Alors depuis plusieurs jours, nous parlons donc de ce possible remède, cette molécule, la chloroquine. Il faut que les tests se confirment bien sûr, mais c'est un véritable espoir ou non ?
Disons que pour l'instant, les résultats sont quand même relativement limités. C'est une molécule qui est utilisée dans deux indications, qui a été utilisée pour le paludisme parce que maintenant le parasite est résistant, et puis qui est utilisée dans certaines maladies inflammatoires parce que cette molécule a une activité anti-inflammatoire. Alors, dans le cadre des coronavirus, on a des données in vitro, c'est-à-dire quand on cultive le virus donc en dehors de l'organisme humain sur des cultures cellulaires, et ce qui a été montré, c'est comme qu'avec ce médicament-là, mais également avec d'autres antiviraux, on a une réduction de la multiplication du virus. Et puis la deuxième information qu'on a, c'est que les Chinois, donc nos collègues chinois, ont publié un court article, c'est extrêmement court, où ils disent qu'ils ont traité des patients et que les patients traités semblent aller mieux. Mais on n'a vraiment aucun détail, on ne sait pas si ça a été comparé avec des patients qui n'auraient pas reçu ce médicament. Donc aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement préliminaire de dire que ce médicament va être le médicament miracle.
Prudence donc, un premier mort français hier, un enseignant de 60 ans dans l'Oise. Il n'avait pas voyagé professeur dans l'une, ou en tout cas pas voyagé récemment dans l'une des zones à risque. Il y a de quoi être inquiet ?
Ça veut simplement dire que le virus très probablement circule en France plus que ce qu'on pense, puisque nous, ce qu'on fait, c'est qu'on screen, on prélève les gens qui ont des manifestations cliniques, de la fièvre, des signes respiratoires et qui ont été en contact avec des gens qui reviennent d'une région ou d'un pays où le virus circule. Là, en l'occurrence, il semble que ce patient-là et le deuxième patient qui est actuellement en réanimation n'ont pas voyagé, n'ont pas été en contact ou en tous les cas, ça n'a pas pu être déterminé. Mm-hmm. Et donc, l'hypothèse, c'est que ils étaient en contact avec une personne infectée, mais qui n'avait pas de symptomatologie clinique, et que probablement le virus circule en France.
Le virus qui circule plus que ce que l'on pense. Merci, professeur Launay, d'être intervenu en direct dans le journal de 8 heures.
Le coronavirus, toujours, qui provoque une onde de choc économique. Plusieurs grandes sociétés sont secouées. On en a beaucoup parlé ici, bien sûr. Air France se lance dans la chasse aux coûts pour réduire l'impact du virus.
Bonjour, Axel de Tarlet.
Bonjour.
Air France se prépare à une chute drastique du nombre de ses passagers.
Oui, ça commence. Les réservations vers l'Asie ont chuté de 68%. Alors, hors Chine, puisque vous savez que vers la Chine, il n'y a plus de vols. Et la crainte, maintenant, que le virus se propage en Europe, mais aussi en Amérique du Sud, eh bien c'est une chute du trafic partout dans le monde. Ça veut dire plus de recettes et donc il faut se mettre en mode survie. Alors effectivement, le journal Les Échos a intercepté un courrier interne adressé au manager d'Air France. Il leur a demandé de suspendre toutes les dépenses non critiques, donc plus de réception. On arrête le recours à des consultants extérieurs. Suspension des campagnes de promotion, gel des embauches. Les salariés d'Air France sont invités à prendre leurs vacances avec, en Allemagne, la Lufthansa incite même ses salariés à prendre des congés sans solde. On le voit et on prend la mesure de la crainte liée à cette épidémie. C'est toute une industrie qui se prépare au pire, au mode zéro touriste.
Merci Axel de Tarlet.
À Strasbourg, un incendie cette nuit dans un immeuble au centre-ville a provoqué la mort de 5 personnes et en a blessé 7 autres.
Jean-Gabriel Bourgeois, vous êtes sur place pour Europe 1 ce matin. Le bilan est très lourd.
Oui, et c'est difficile ce matin d'imaginer le drame qui s'est déroulé cette nuit dans cet immeuble de 7 étages complètement vide ce matin. Pas de marque de cet incendie, la façade est à peine calcinée. Selon les premiers témoignages, tout s'est passé en pleine nuit. Vers 1h15, les pompiers sont appelés et c'est à ce moment que dans l'appartement de Pablo et Marie, les machines électriques s'affolent. C'est le bruit qui réveille le jeune couple qui vit au deuxième étage.
Le bruit, ça faisait des tac 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 comme ça de compteurs qui...
C'est le compteur électrique.
Moi j'ai cru que c'était ma machine à café qui déconnait. Et du coup, je me suis levée, je me suis dit « Ah, c'est quand même bizarre et tout ça ». Et puis après, on commence à entendre des bruits dans l'escalier. Et puis d'un coup, on entend des gens qui descendent vite la cage d'escalier comme ça.
Puis moi, j'ai tenté de sortir de notre appart, on est au deuxième étage. Et quand j'ai ouvert la porte, il y a une bourrasque de fumée immense, donc impossible de sortir.
C'est par la fenêtre qu'ils réussissent à sortir avant d'être provisoirement logés dans un hôtel juste à côté. Ils font partie des 23 personnes indemnes dans ce drame qui a fait 5 morts. 7 autres personnes sont blessées. Les sinistrés ont été accueillis dans un gymnase de la ville. Selon les tout premiers éléments de l'enquête, le feu serait parti d'un tableau électrique dans les parties communes de l'immeuble. 2 personnes ont été interpellées à proximité et sont interrogées pour des vérifications.
Jean-Gabriel Bourgeois, envoyé spécial d'Europe 1 à Strasbourg.
Une décision qui fera date. La filiale de crédit de la banque BNP Paribas, qu'on connaît sous le nom de CTLM, a été condamnée hier à une lourde amende dans l'affaire des prêts toxiques Helvet Immo.
La banque est coupable de pratiques commerciales trompeuses pour ne pas avoir alerté ses clients sur les risques de ses prêts libellés en France suisse. Des milliers de petits épargnants s'étaient retrouvés surendettés. Leur avocat, maître Charles Constantin Vallée, au micro européen de Salomé Legrand.
Le tribunal a jugé que BNP avait trompé l'ensemble des consommateurs sur tous les aspects du contrat. Cette décision qui est à la hauteur de l'histoire du droit de la consommation. Elle marquera l'histoire du droit de la consommation et elle va faire jurisprudence pour la suite s'agissant du comportement des professionnels. Ils vont comprendre que désormais, vis-à-vis des consommateurs, ils vont devoir se comporter de manière loyale et ne pas chercher avec des petites lignes, avec des stratagèmes, à les tromper s'agissant du risque et type de contrat qu'ils proposent.
Vous restez bien avec nous dans un instant, direction la Grèce où des camps de réfugiés attisent la colère des habitants. On va en parler dans la suite du journal de 8h. Vous restez bien sur Europe 1.
Europe 1, il est 8h12, la suite du journal. Sonia Mabrouk, Mathieu Béliard.
Et direction la Grèce à présent, où pour la deuxième journée consécutive hier, de violents heurts ont opposé la police à des habitants des îles de la mer Égée. Ces derniers refusent catégoriquement la construction de deux nouveaux camps pour les migrants.
Bonjour Vincent Herouet.
Bonjour.
Le Premier ministre grec appelle au calme tout en restant ferme sur la construction de ces nouveaux camps.
Alors à Mytilène, capitale de Lesbos, il y a 30 000 lesbiennes et lesbiens et dans le camp de Moria à côté, presque autant de migrants. Ils viennent de la terre entière, 108 nationalités. Beaucoup d'hommes entre 18 et 30 ans. Le jour, ils tiennent les murs du centre-ville. La nuit, les Africaines font le trottoir. Tous attendent le visa ou l'expulsion. Évidemment, vol, bagarre, trafic de drogue, caillassage, incendie volontaire, pillage des villas, massacre du cheptel. Désespère l'autochtone. L'autochtone, personne ne le plaint, il a un toit. Les 80 ONG sur place lui font même la leçon. Elle prospère sur le malheur. Et l'insulaire se sent seul face au tsunami migratoire. L'Europe l'a oublié. Mais les îles, c'est fait pour ça. Y oublier ses soucis. Comme Napoléon envoyé à Sainte-Hélène, Pétain à l'Île-Dieu et les migrants à Lesbos. Ce qui rend fou les habitants, c'est d'être trahi par la droite pour laquelle ils ont voté massivement au printemps.
Le gouvernement grec veut créer des centres fermés pour 20 000 réfugiés.
Des camps durs, des camps en plus. Les habitants ont voté contre. L'État est passé outre. Lundi, les bulldozers ont débarqué avec la police anti-émeute. Le chantier est ouvert, les hostilités aussi. Le conseil régional dénonce le mépris pour des îles qui ont donné naissance à Homère et Pythagore. Le vrai théorème, c'est que l'État ne protège plus les citoyens. L'État grec est le parti de l'étranger, hier soumis à l'Allemagne, aujourd'hui à la Turquie. Europe est un mot grec, démocratie aussi, mais les deux sont piétinés à Lesbos.
Le regard international de Vincent Hervet, c'est tous les jours dans le journal de 8h.
Pourquoi avoir autorisé le déplacement à Lyon de 3000 supporters italiens pour le match hier soir? C'était de la Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin.
En pleine crise du coronavirus, bien sûr, la décision de ne pas annuler ce déplacement est pour le moins troublante, mais restons pour l'heure sur l'exploit de l'équipe lyonnaise en 8e de finale aller de Ligue des Champions. 1-0, c'est la première fois que Lyon s'impose face à ce géant d'Europe. Grosse ambiance forcément hier au Groupama Stadium. Cyril de la Morinerie.
Sur le terrain, les joueurs viennent saluer les supporters. En tribune, tout le monde est debout. Pierre n'en revient toujours pas. Lyon a bel et bien battu la Juve de Cristiano Ronaldo.
Quelle victoire! Plus beau match de la saison, ça c'est sûr. Cristiano Ronaldo, pas bon aujourd'hui.
Pas bon, comme le reste de l'équipe turinoise. Malgré sa pléiade de stars, le club italien n'a pas réussi le moindre tir cadré. Le héros du match, c'est Luca Touzard, idéalement servi à la 31e minute par Oussem Aouar.
Je vois que le ballon arrive sur mon pied gauche et j'arrive à la mettre au fond. Donc, émotion de fou. Je savais qu'il y avait beaucoup de monde qui me soutenait dans la tribune. Et voilà, des frissons et après, tout qui va bien.
Et même si ce supporter y croit dur comme fer,
on va voir ce qu'il allait faire au match retour.
L'entraîneur lyonnais Rudy Garcia se montre prudent. Ce n'est que la première manche. La deuxième est prévue à Turin dans 3 semaines. Lyon, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
8h15, votre invité politique Sonia.
Vous venez de l'entendre, beaucoup d'ambiance hier au Groupama Stadium de Lyon, mais aussi de nombreuses questions pour notre invité, la porte-parole du gouvernement. Pourquoi le match n'a pas été annulé ou du moins reporté? Où est le fameux principe de précaution? Le gouvernement l'a-t-il pris à la légère pour la ville de Lyon? Bonjour Sibeth Ndiaye.
Bonjour.
A tout de suite sur Europe 1.